Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'ai complètement oublié hier, trop occupé à rendre hommage à Bob Marley. Mais hier, Ensemble sur Calade a eu un an. Voilà, ça fait un an qu'on se retrouve du lundi au vendredi. Ça fait suffisamment de plaisir pour que ce soit important de le signaler. Nous sommes le mercredi 12 mai 2021. Il fait assez beau dans le Beaujolais malgré quelques nuages. Et on profite de températures qui devraient monter autour de 16 à 17 degrés cet après-midi. Au programme de notre émission, comme chaque mercredi, on passe un moment avec le prof Patrick pour parler d'économie. On termine ce rendez-vous avec une rubrique ciné proposée à nouveau cette semaine par Pauline Lavenir. Elle va nous parler du film Fight Club. Mais avant ça, eh bien, on va s'intéresser à nos invités du jour. Olivier Thielan, directeur du pôle travail de l'association Agivre, et Clémence Laquet, responsable commercial et production, qui vont nous présenter Solact, un ESAT et un EA dans l'ordre établissement et services d'aide par le travail et entreprises adaptées. Solact donne accès à 230 emplois des personnes en situation de handicap dans plusieurs secteurs d'activité. Olivier Thielan et Clémence Laquet vont nous expliquer ce qui s'y passe, comment ça fonctionne. On en parle en détail dans quelques minutes. Avancez un petit peu de musique, puisqu'on parle de travail aujourd'hui. Voici le conseil d'Henri Salvador pour rendre ça agréable. Siffler en travaillant, nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous.
Si votre ardeur devient tiède, gaiement allez-y d'un petit air. Quand votre esprit est morose, chantez, fait voir tout en rose, car la musique adoucit les nerfs.
Détendu quand on commence une émission avec du Henri Salvador, siffler en travaillant.
Ensemble sur Calade.
100.9 Calade.
Allez, aujourd'hui avec moi en studio, Olivier Thielan et Clémence Laquet pour nous parler de Solact, le pôle travail de l'association Agivre. Bonjour.
Bonjour
à tous les deux, merci d'être avec nous en studio. Avant de parler de Solact en particulier, c'est un pôle qui dépend de l'association Agivre. Donc il va falloir expliquer ce que c'est que cette association Agivre, c'est quoi ?
Donc Agivre, c'est une association de famille qui a été créée en 1957, qui aujourd'hui rassemble ou accompagne 700 personnes en situation de handicap, au sein du Beaujolais principalement, bien évidemment. On accompagne ces personnes de l'enfance jusqu'à l'adulte. Hein. On a bien sûr un pôle enfance avec un IME, un IMPRO, une plateforme de détection des troubles précoces. On a bien sûr un pôle hébergement avec beaucoup d'habitats dans le Beaujolais. Et puis un pôle habitat et soins pour pouvoir accueillir des personnes qui nécessitent des soins plus ou moins poussés pour elles. Et puis bien sûr, nous avons le pôle travail qui a deux sites sur Villefranche, un site sur Villefranche et un site sur Belleville sur lequel on accueille 230 ouvriers en situation de handicap et puis une vingtaine de personnes salariées en établissement adapté.
Et donc à Givre, comme vous l'avez dit, ça va intervenir sur toutes les étapes de la vie. Il y a des services adaptés à chaque étape, que ce soit l'enfance, le travail, l'habitation, toutes ces choses sont concernées par l'association.
Tout à fait. On a une vraie volonté d'accompagner la personne dans son parcours de vie. Hein. C'est comme ça qu'on le qualifie dans le métier. Vraiment leur permettre d'assurer une continuité d'une personne qui est à l'école dans un IME et puis qu'on va emmener vers l'âge adulte sur un espace travail. Mmh. Et puis en fonction de ses capacités, son vieillissement, etc. On peut effectivement mettre en place des activités aussi. Et puis aller jusqu'à l'hébergement final. Bien évidemment.
Et donc ça, c'est une association locale, propre au Rhône, en fait, à Givre, c'est pas un truc national, c'est...
C'est une association qui est basée sur le territoire du Beaujolais, ouais. Et c'est notre force. Nous, on veut vraiment continuer à s'implanter et à s'agrandir sur ce territoire. Il y a d'autres ESAT, il y a d'autres pôles enfance, etc. dans le Rhône. Mais voilà, notre volonté, c'est de couvrir le territoire du Beaujolais. Et c'est pour ça que notre bureau et notre conseil d'administration œuvrent au quotidien pour étoffer ces accompagnements.
Et donc, parmi les nombreux pôles et les nombreuses actions de la Givre, il y a Solact. Alors, en quelques mots, pour résumer Solact, vous l'avez déjà un petit peu fait. C'est quand même 230 emplois dans le Beaujolais pour des personnes en situation de handicap. C'est une belle opportunité.
Alors, c'est une belle opportunité. Je crois que si on regarde en France, on doit être dans les 10 premières associations à avoir un pôle travail aussi grand. Alors, ça nécessite, Clémence en parlera tout à l'heure, de couvrir beaucoup de clients, de couvrir beaucoup d'activités. Mais c'est une vraie force. On devient vraiment un acteur local dans le bassin sur la partie activité industrielle, activité restauration, blanchisserie. Et c'est une vraie force. Et c'est un vrai point d'entrée pour les personnes en situation de handicap.
Quand on est justement atteint par un handicap, comment ça se passe pour trouver un emploi on va dire traditionnellement, c'est aujourd'hui en France, c'est simple, c'est compliqué?
C'est à la fois simple et à la fois compliqué. Certaines personnes sont très vite repérées avec leur handicap et sont dirigées par les MDPH, les maisons spécialisées pour la partie handicap, et qui redirigent en fonction et qui donnent des orientations en fonction de leur handicap. Il y a d'autres personnes qui découvrent leur handicap petit à petit ou qui, suite à des accidents de la vie, ont un handicap en plein milieu de leur carrière professionnelle. Et dans ce cas-là, on n'est plus sur des personnes qui ont des filières Cap Emploi, Pôle Emploi, qui nous sont dirigées et avec qui on travaille pour les insérer dans ce milieu-là.
Et de l'autre côté, du côté des employeurs, comment se passe la législation sur... je crois qu'il y a des lois quand même qui encadrent ce type de travail.
Tout à fait. Alors on est bien sûr sur la partie sécurité régie par le code du travail pour n'importe quel type d'établissement. Là-dessus, on ne tergiverse pas sur cette règle. Et puis ensuite, on a deux établissements. Donc l'ESAT, à proprement parler, lui est régi par la loi du 2002 et 2005, qui sont des lois plutôt portées par la partie, on va dire, code des actions sociales et des familles. Et régi par plutôt par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Côté établissement adapté, on est plutôt sur la directe, maintenant ce qu'on appelle l'ADRETS, comme n'importe quelle entreprise du bassin.
Et donc, à Solact, vous nous avez parlé de plusieurs secteurs d'activité. Il y a plein de choses qui s'y passent. Qu'est-ce qu'on fait à Solact?
Alors, ils travaillent. Ils sont handicapés, effectivement, mais ils sont avant tout ouvriers.
Ouais.
Ils sont fiers de l'être et ils ont plusieurs secteurs d'activité qui leur sont proposés. Les espaces verts, la blanchisserie, la restauration, de la sous-traitance. On fait beaucoup de mises à disposition dans les entreprises du bassin et de la prestation de services. On ne se freine pas. les ESAT d'avant, qui étaient plutôt de l'occupationnel, maintenant sont devenus quand même de véritables entreprises. Et la plupart des clients nous font confiance. Ils ont des besoins que d'autres entreprises plus importantes, on va dire, ne sont pas en capacité de leur fournir par manque de flexibilité. Et en général, ils se tournent vers un ESAT, en l'occurrence Solact, qui s'ouvre à toutes les opportunités voilà, de la vie.
C'est-à-dire que ouais, vous vous adaptez, vous avez une bonne capacité d'adaptation aux demandes des clients, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. On est entouré de beaucoup de professionnels. Certaines personnes ne sont pas seulement issues du médico-social au niveau de l'encadrement. Ils viennent souvent de milieux bien particuliers, que ce soit de la logistique, de la production, de l'industrie, de la restauration. Et ils mettent leurs connaissances au service justement des formations des ouvriers pour qu'ils puissent accéder à un métier. Voilà, donc on s'ouvre à tous les besoins.
Et donc, il y a les différents secteurs, ça commence par mécano...
De la mécano-soudure, ça c'est l'entreprise adaptée.
Ouais.
Qui est concerné, où là on a une douzaine de professionnels.
C'est ça, une douzaine de professionnels qui sont des tourneurs, des fraiseurs, qui sont aussi des soudeurs et très professionnels. On est assez reconnus sur ce métier-là dans le bassin, notamment sur l'activité de soudure, où on a 4-5 personnes qui sont de haut niveau dans leur métier.
Il y a tout un secteur de l'emballage, cartonnage, mise sous film.
Effectivement, on travaille beaucoup pour beaucoup d'entreprises dans le style d'Hartmann, qui est une grosse structure sur Belleville. Et ça, c'est pour de la mise sous film. Après, on travaille pour d'autres entreprises, bien sûr, du formage de carton pour des sociétés comme Fermob, TNM, Cartonéo, qui sont implantées sur le bassin. Puis d'autres structures, bien sûr. Et puis au niveau du cartonnage, on fait beaucoup de préparation de commandes pour des entreprises nationales aussi.
Je continue la liste de vos activités parce que ça s'arrête pas là. Il y a une salle propre, je ne savais pas ce que c'était avant de vous découvrir.
Tout à fait, une salle propre, c'est une salle où on va limiter la poussière à l'intérieur. Ouais. Très clairement, on va rechercher le moins de particules possible sur les produits. Là, on va travailler plus pour la partie pharmaceutique sur lequel on va faire des assemblages ou des emballages ou du conditionnement bien particulier qui nécessite une atmosphère bien contrôlée, ce qu'on appelle les normes ISO 7, ISO 8 ou autres. Et ça devient un vrai savoir-faire aussi sur Solact.
Et donc là, vous êtes c'est sous-traitant de partie pharmaceutique, quoi.
Tout à fait. On a quelques entreprises de ce milieu-là dans le bassin et on est leur vrai sous-traitant aujourd'hui. On peut faire du montage d'aspi venin, par exemple. Donc on travaille pour ces sous-traitants-là.
Et puis il y a la blanchisserie. Je crois qu'il y a du service de jardinage.
Tout à fait. Nous avons trois équipes d'espaces verts, une équipe autonome où les ouvriers sont sur le terrain directement chez les clients, une équipe accompagnée par un moniteur, ça c'est pour la partie ESAT, qui font également des prestations chez les particuliers ou dans les entreprises, et une équipe EA, donc de l'entreprise adaptée, qui eux se déplacent sur un secteur un petit peu plus large que les ESAT, qui sont un peu plus autonomes.
Et il y a une partie restauration aussi que j'ai failli oublier, avec une grande capacité. Enfin, j'étais impressionné.
Tout à fait. Notre activité restauration est sur une base d'une cuisine centrale sur laquelle on peut réaliser jusqu'à 800 repas jour. On travaille avec un prestataire qui est un vrai partenaire avec nous aujourd'hui, qui monte nos ouvriers en compétences sur du chaud, du froid, de la préparation d'entrée, du plateau repas, du petit déjeuner, jusqu'à faire le service directement dans une salle de réunion par exemple ou sur un buffet. C'est un vrai savoir-faire, c'est très reconnu, on y mange très bien d'ailleurs, ce passage. Donc c'est vraiment un bel environnement. En tout cas, on s'est doté sur le site de Villefranche d'un environnement remarquable dans ce domaine-là.
Et justement, pour en parler des deux sites qu'il y a à Villefranche, il y en a un à Villefranche, il y en a un à Belleville, comment c'est distribué les secteurs
On va dire que la partie service, blanchisserie, restauration sont sur Villefranche parce que ça nécessite des infrastructures bien particulières. Le reste du site de Villefranche est basé plutôt sur de l'assemblage, du conditionnement avec l'activité mécano-soudure. Le site de Belleville a, lui, en contrepartie, toute la partie salle propre. puisque pareil, ça nécessite une infrastructure particulière, avec beaucoup d'activités d'assemblage et de conditionnement, notamment pour les gros clients qui sont sur Belleville. Voilà. C'est un site qui, à terme, notre objectif, c'est de l'emmener dans la nouvelle zone qui est en train de se créer sur Belleville, où on a un vrai projet de reconstruction d'ici 5 ans dans cette zone-là.
D'accord, donc il y a des vrais projets autour de Solact, d'évolution.
Tout à fait.
Comment ça se passe pour les ouvriers, les salariés de l'entreprise? C'est quoi le parcours habituel au sein de l'entreprise? On rentre dans une branche, dans un secteur et...
Alors, sur l'entreprise adaptée, c'est Cap Emploi qui va mettre en place avec nous des stages d'immersion. On va leur faire découvrir le métier, puis voir effectivement dans notre milieu si ça peut leur convenir. Mmh. Et puis ensuite, ce sont des personnes qui sont en contrat à durée indéterminée ou en CDD, comme vous et moi, qui évoluent tout au long de leur carrière. Côté établissement ESAT, cette fois-ci, c'est un parcours un peu plus différent. On va plus travailler avec d'autres associations ou notre propre IME pour mettre en place des stages d'immersion. Ils vont essayer plein d'activités sur une période d'à peu près un mois. Et puis ensuite, ils vont être orientés, ou ils le sont peut-être déjà au préalable, orientés par la MDPH pour devenir des ouvriers. Et là, on n'est pas sur un contrat de travail traditionnel, on est sur un contrat d'aide et de soutien par le travail, qui est un contrat bien particulier dans le code des actions sociales et des familles, qui leur permet de pouvoir évoluer aussi longtemps qu'ils le voudront sur notre pôle.
Vous avez parlé dans le secteur de la restauration d'intervenants qui étaient très formateurs, vous avez dit.
Oui.
Y a une évolution, j'imagine, dans la carrière. Est-ce que il y a des employés qui partent après dans d'autres secteurs qui sont pas des secteurs réservés, on va dire?
Alors, notre objectif quand même, c'est aussi de pouvoir réinsérer des personnes dans le milieu ordinaire, que ce soit sur la restauration, la blanchisserie, l'espace vert ou autre. Donc notre mission, c'est de les former, de les accompagner, de les monter en compétences le plus possible, et puis ensuite d'assurer cette transition pour ceux qui le souhaitent ou pour les clients qui ont ce désir-là, de pouvoir avoir des personnes en situation de handicap dans leur mur. Donc on les accompagne sur 2 ans, 3 ans, dans ce qu'on appelle un contrat de prestation, une mise à disposition. Puis ensuite, on a eu quelques succès l'année dernière. On a eu 2 personnes qui sont parties en CDI dans des entreprises. On en a d'autres qui sont placées et qui, à terme, pourront aussi, je pense, signer des contrats à durée indéterminée dans le milieu ordinaire. Donc c'est ça aussi la richesse de Solight. Et puis c'est une vraie fierté de pouvoir emmener ces personnes-là dans ce milieu ordinaire.
J'ai fait un petit tour sur vos réseaux sociaux, forcément, avant que vous veniez. J'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance de travail et une grande cohésion au sein de Solact.
Alors avec 230 personnes accompagnées, voire même un peu plus, il faut créer cette cohésion parce qu'on peut vite se noyer au milieu de tout le monde. Donc on crée des événements festifs tout au long de l'année, des fêtes d'été, des fêtes de Noël, des grands rassemblements Interpol aussi. L'objectif, c'est de temps en temps de pouvoir se retrouver, parler de ce qui se passe aussi dans notre pôle, et puis pouvoir faire un peu la fête et se souder pour qu'on puisse continuer nos évolutions, parce qu'on a besoin d'être soudés.
Et puis encore une fois, sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, j'ai vu vous communiquer sur des questions d'AGFIP. Alors là, ça va plus concerner les entreprises qui vont faire appel à vos services, c'est ça ?
Complètement. Quand on fait appel à une prestation ou un conditionnement ou autre, c'est des entreprises qui peuvent venir ici, qui peuvent réduire leur taxe AGFIP ou leur pénalité. Il y a un calcul très très complexe, très savant, mais ça leur permet effectivement de réduire leur pénalité ou leur taux. Et puis ça peut compter aussi comme des unités bénéficiaires. Donc ils peuvent effectivement avoir cet avantage-là quand ils font appel à nos services, ou soit par la prestation en milieu. Dans leur milieu, soit via une activité qu'on leur fournit.
Et investir chez vous, ça peut créer de nouveaux emplois, créer de nouveaux postes chez vous, et ça peut que être une bonne chose, je pense.
Exactement. Exactement.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler en studio de Solact, cette branche travail de la Givre.
Merci à vous.
Merci.
Pour votre accueil.
On va se quitter en musique, on reste dans le domaine du travail, on écoute Bernard Lavillier avec Les Mains d'Or. À bientôt, au revoir.
Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit, de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui devient fou.
Bernard Lavillier sur Calade qui voudrait travailler encore.
La solution économique, c'est la richesse de la commune. C'est la
mort. Ensemble sur Calade. Le prof Patrick.
Allez, il est l'heure de parler économie avec le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Alors, dans quel sujet est-ce que vous allez nous emmener aujourd'hui ?
Alors d'habitude, je m'attache à être en dehors de l'actualité parce que je trouve que c'est une façon de faire de la contre-programmation. Mais là, le sujet que je voulais aborder est soudain arrivé dans l'actualité puisqu'on va parler des vaccins anti-Covid et de la notion de propriété intellectuelle de biens publics mondiaux. Alors, cette question, c'est quoi ? C'est un vaste débat. Faut-il faire de ces vaccins anti-Covid un bien public mondial ? Traduction, un bien qui ne soit pas la propriété des grands groupes pharmaceutiques via les brevets qu'ils détiennent. Parce que les différents pays occidentaux ont beau avoir à eux tous financé les deux tiers de la recherche sur le vaccin anti-Covid, donc pour un coût global quand même de 30 milliards de dollars, il n'en reste pas moins vrai que ce sont les grands labos pharmaceutiques qui détiennent seuls la propriété intellectuelle de ces vaccins.
Et donc pour chaque dose, il faut payer le...
Exactement, ouais, petite royalties, on pourrait dire. C'est ça. Pourtant, ces labos n'auraient jamais pu trouver ces vaccins sans cet argent public massif. Alors, en mai 2020, on a plusieurs chefs européens de l'Union européenne, dont Emmanuel Macron, qui avaient annoncé que les vaccins anti-Covid seraient un bien public mondial et qu'ils ne seraient pas la propriété des groupes privés. Ceci afin que l'ensemble de la population mondiale puisse en profiter. Formidable. Bon, on va faire un petit temps mort, hein, comme au basket, et on va dire c'est quoi un bien public mondial, parce que quand même qu'on précise un petit peu.
Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que ça existe vraiment ?
Ça existe, mais tu vois que c'est une notion un peu compliquée, un peu bancale en fait. C'est une notion bancale. Alors elle est dérivée d'une notion qui, elle, est beaucoup plus précise, la notion de bien public tout court. Un bien public, c'est quoi ? C'est un bien dont la consommation n'empêche pas un autre acteur de le consommer. Exemple, j'écoute la radio dans ma bagnole, j'écoute devine quoi, Radio Calade,
ouais.
Et ben j'empêche personne d'écouter aussi Radio Calade en même temps.
C'est vrai.
Premier critère. Deuxième critère, c'est un bien public pour lequel on ne peut pas empêcher qui que ce soit de le consommer. Je ne peux pas aller chez mon voisin et dire « tu n'écoutes pas Radio Calade, sinon je te tape ». Non, non, on n'a pas le droit. Donc la radio est aussi, répond au deuxième critère, et donc un bien public. Bon, le problème c'est que les vaccins ne répondent pas au premier critère. Quand on m'a injecté une dose de vaccin à moi, ben, la même dose, on ne peut pas l'injecter à quelqu'un d'autre. D'accord ? Oui. Alors on pourrait dire, bon, on va tricher un petit peu, on va regarder sur le global de la quantité de vaccins. Bah oui, mais le problème se pose sur le global de la quantité de vaccins, puisqu'on sait qu'on n'en a pas assez pour vacciner l'ensemble de la population au jour d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas français d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc la question des capacités de production constitue un enjeu majeur, hein, d'accord ? Mais venons-en au second critère. Le second critère, c'est celui qui va mettre sur le devant de la scène la question des brevets, puisqu'en fait, c'est avec un brevet qu'on peut, un laboratoire peut empêcher un pays de fabriquer, de vendre de son vaccin, ouais. puisqu'il n'en a pas la propriété intellectuelle. Alors, face à ça, il existe un mécanisme depuis l'année 2001 qui a été validé par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. C'est un mécanisme qui s'appelle l'exception de licence obligatoire, ou alors licence d'office. Alors ça a permis à l'époque à l'Inde de produire des médicaments génériques contre le sida. Et ces médicaments utilisaient des brevets privés sans avoir à obtenir l'autorisation préalable des labos pharmaceutiques propriétaires de ces brevets et sans même payer de royalties. Alors note bien quand même Mathieu que la propriété des médicaments restait quand même dans les mains des labos pharmaceutiques. Mmh. D'accord ? On n'est donc pas complètement conforme à l'idée d'un bien public mondial, mais c'est quand même une voie possible pour résoudre la question du Covid. Sauf que...
souvent il y a un sauf que.
Hein, voilà. Il attendait son sauf que, Mathieu, donc je lui ai donné. Voilà. Sauf que depuis un an, ce sont bien les États européens, tout autant que les États-Unis et le Royaume-Uni, qui refusaient d'appliquer cette exception de licence obligatoire. Alors pourquoi ? On va appeler un chat, hein, Mathieu.
Ouais.
Hein, d'accord ? Pour protéger les intérêts de leurs amis des grands labos pharmaceutiques.
Ah bon, on ne s'attendait pas.
Ouais, c'est vrai. Alors, avec des arguments qui sont repris dans le manuel du petit lobbyiste fourni par les labos, hein, j'ouvre ouais. les guillemets, ce ne sont pas les brevets qui bloquent la production, c'est le manque de savoir-faire des pays. Fermons les guillemets. Alors, on va quand même écouter hein, l'argumentaire, hein, même si ça vient du manuel des lobbyistes. Ça pose la question des transferts de compétences et de technologies qui sont indispensables pour que les pays en développement puissent prendre en main la fabrication de ces vaccins. Et il est vrai que même un pays comme l'Inde, qui est doté d'une vraie industrie pharmaceutique, n'a pas la maîtrise technologique pour fabriquer des vaccins ARN. D'accord ?
Oui.
Donc, c'est pas complètement faux, cet argument.
D'accord.
Sauf que, deuxième sauf que... Ouais. Sauf que les grands labos pharmaceutiques, ils ne sont pas non plus enthousiastes à l'idée de ces transferts de technologie. Ils ne sont pas chauds non plus, parce que leur compétitivité dépend autant de ces transferts, du moins de cette maîtrise technologique, des brevets.
D'accord,
eh oui. En tout cas, il s'agit pour eux, donc, quelque part, de préserver les conditions de l'économie de marché, les conditions de concurrence, de compétition et de capacité à générer des profits. On va peut-être leur rappeler à ces petits chéris des grands labos hein, que les deux tiers du financement du Covid sont venus de l'argent public. D'accord ?
Ouais.
Donc, est-ce qu'on n'est pas complètement sorti du cadre habituel de l'économie de marché ? Je pense que la réponse est oui, on est sorti malgré tout. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre, ces braves gens.
Ouais.
Bref, pour Big Pharma et les alliés européens, il était urgent de ne rien faire. Alors, on va parler d'une autre initiative de grande ampleur, hein, à côté de cette première, une autre initiative qui s'appelle le COVAX. Le COVAX, c'est un dispositif qui est financé par l'ONU et qui est organisé, c'est en cours, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le but, c'est de garantir l'égalité d'accès aux produits de diagnostic, de traitement et de vaccins contre le Covid, égalité d'accès à tous les pays du monde, notamment les plus pauvres.
Ouais.
L'objectif précis du COVAX, c'est de mettre 2 milliards de doses de vaccins à disposition de tous les pays d'ici la fin de l'année 2021.
D'accord,
c'est ambitieux.
Ouais.
Alors, d'un côté, les plus grands pays ont participé à son financement. Hein. L'Union européenne a lâché 850 millions d'euros. Les États-Unis ont lâché le double, 1,6 milliard d'euros. Donc, c'est bien. Mais les pays occidentaux ont tous géré leur approvisionnement en vaccins en dehors de ce dispositif. Ils se sont fait fournir directement par les grands labos pharmaceutiques. Par exemple, 96% des doses de vaccins Pfizer ont été livrées, devine-nous, aux États-Unis et en Union européenne. Bref, ça relativise énormément le principe fondateur du COVAX qui est garantir un égal accès aux vaccins à tous les pays du monde. Bref, on en reste toujours à ce qui se pratique systématiquement en cas de crise sanitaire. Les pays en développement sont toujours les derniers servis.
Bien sûr, ouais.
Ça s'est produit déjà dans le cas du VIH, ça s'est produit dans les cas des hépatites, dans le cas des tuberculoses, c'est systématiquement la même chose. On est donc, Mathieu, tu l'as compris, très loin de la logique des vaccins bien publics mondiaux. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ouais. Voilà un coup de théâtre qui est arrivé il y a quelques jours. Et le coup de théâtre est très récent, hein, c'est ce week-end. Le président américain Joe Biden vient d'annoncer qu'il était favorable à la levée de la propriété intellectuelle sur ses vaccins afin d'accélérer la production mondiale. Bref, il est favorable à l'idée de bien public mondial, vaccin bien public mondial. Ouais. Formidable. Il appelle à rédiger une dérogation généralisée et temporaire de 5 ans, par exemple, sur leur propriété intellectuelle. L'idée que pendant 5 ans, il n'y a plus de propriété intellectuelle dans les mains des grands labos. Cette décision, tu t'en doutes bien, suscite une levée de boucliers de la part des pays européens qui étaient justement réunis la semaine dernière à Porto. Emmanuel Macron, dans un exercice de double langage qui relève du grand art,
un génie, là.
A affirmé à la fois que les Européens sont d'accord pour faire de ces vaccins des biens publics mondiaux, mais en même temps que ça ne sert à rien. Pour lui et pour les Européens en général, la priorité, disent-ils, c'est d'exporter massivement les vaccins produits. Ce qui leur permet de mettre en avant le fait que l'Union européenne est l'institution internationale qui a le plus exporté de vaccins vers les pays en développement. C'est vrai, hein. 50% des 400 millions de doses produites en Union européenne ont été exportées. Alors qu'en face, les États-Unis, jusqu'à il y a très peu de temps, interdisaient l'exportation de vaccins produits sur leur territoire anti-Covid. Ils ont annoncé seulement le 26 avril qu'ils allaient débloquer la livraison à l'étranger de 60 millions de doses de vaccins. 60 contre 400, on est encore loin du compte. Donc on a d'un côté la tactique de com' de l'Union européenne face à la proposition de Biden qui consiste à s'abriter derrière l'urgence incontestable de la situation. Il faut que les vaccins arrivent le plus vite possible dans les pays en développement. Mais ça, ça permet d'en rester à la politique habituelle de la charité.
Ouais.
Hein, on offre les vaccins à ces pauvres pays malheureux en développement. Pour surtout ne rien changer quant à la question de la propriété intellectuelle.
Ouais.
Et en rester à business as usual. Et repousser la question du vaccin bien public mondial au calende grec.
Mais s'offrir quand même des petits effets d'annonce au passage.
Alors, ils sont un peu embêtés parce que pour l'instant, l'effet d'annonce, c'est plutôt Biden qui en bénéficie.
Ouais.
Et la question, c'est est-ce que la déclaration de Biden est un effet d'annonce et aussi un coup de com', ou est-ce que ça va vraiment faire bouger les choses? Et là, les semaines à venir, nous le dirons, en quelque sorte. D'accord? Donc, en conclusion à cette situation où on en est là à l'instant T, je ne peux pas aller plus loin. Je vais laisser la parole à Pauline Londex. C'est une dame qui est cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. J'ouvre les guillemets. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit « C'est une faute éthique et morale terrible. Les multinationales des pays du Nord n'étaient pas en capacité de produire suffisamment de doses très vite, aussi bien pour nos pays et encore moins pour le reste du monde. Pourtant, les pays du Nord ont empêché d'autres pays d'apporter leurs solutions. C'est dramatique. » Fermons les guillemets. Elle a tout à fait raison. J'en ai fini, Mathieu.
Et on va rester là-dessus, effectivement. Elle a tout à fait raison. Merci beaucoup, Patrick.
Bonne journée.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.
100.9
famille Massamba sur Kelad avec le titre Propriété privée, un morceau trouvé dans une compilation du très bon label Born Bad Record. La compil s'appelle France Chebran, France Boogie. C'est le volume 2 qu'on vient d'écouter. Allez, tout de suite, il est l'heure de parler de cinéma.
Vive le cinéma!
Oh non, c'est pas bon, c'est pas bon!
Vive le cinéma!
C'est mieux comme ça, mon poussin.
Bah non, y'a pas, je vois pas.
Vive le cinéma!
Voilà, exactement.
Ensemble sur Calad.
Aujourd'hui, dans notre rubrique cinéma, on va s'intéresser au film Fight Club. Fight Club est un film de David Fincher, sorti en 1999. Inspiré du roman Fight Club de Chuck Palahniuk, publié en 1996, donc seulement 3 ans avant la sortie du film. Ce film est une critique de la société de consommation à travers l'histoire d'un trentenaire anonyme interprété par Edward Norton qui travaille dans les assurances et est peu motivé par ce qu'il fait. Je vais tenter de vous résumer ce film dense, mais je conseille à ceux qui n'ont pas vu le film de le voir avant d'écouter cette chronique.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Le narrateur, qui ne sera jamais nommé pendant le film, semble isolé et tente de correspondre au code attendu par la société en achetant des biens matériels, avec l'exemple des meubles IKEA, que le narrateur achète et qui sont supposés le définir en tant que personne. Et c'est en ça que Fight Club dénonce la société de consommation. En tant que consommateur, nous achetons des biens qui correspondent à l'image que nous voulons montrer de nous-mêmes aux autres. Et la société nous pousse à consommer afin de nous valoriser à travers ce que nous achetons.
Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning IKEA. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne.
Le narrateur va faire évoluer sa situation par sa rencontre avec Tyler Durden, interprété par Brad Pitt, un personnage charismatique et anti-système avec qui il va créer le Fight Club, un club de combat clandestin qui va se développer bien au-delà de ce qu'il est au début. Tout au long du film, on voit le personnage principal, avec l'aide de Tyler, monter ce club secret qui attire de plus en plus d'hommes jusqu'à devenir un groupe qui prône une forme de terrorisme par des actions de destruction contre la société de consommation. À la fin du film, le narrateur tente de stopper le groupe qui est devenu une organisation secrète dont Tyler est le chef. Et le narrateur va découvrir que Tyler n'est pas une personne réelle, mais qu'il est depuis le début une construction de son esprit. Un double créé par lui-même afin de s'échapper de la situation dans laquelle il était.
Un duvet, tu sais ce que c'est? Une couette en bois. C'est une couverture, tout simplement, ouais. Et pourquoi toi et moi, on sait ce que c'est qu'un duvet, à ton avis? Parce que c'est essentiel à notre survie, dans cette existence précaire que nous menons? Non. Alors on est quoi? On est que des consommateurs?
Tu as dit.
On est des consommateurs, on est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Tout est en train de couler, mec.
Ce film est considéré comme un film culte qui a marqué une génération par ses valeurs anticonsuméristes. Pourtant, le film a été un flop à sa sortie et il a été très critiqué par la presse. Le film est intéressant pour sa critique de la société, des attendus qu'on nous impose en tant qu'individus faisant partie de cette société. De nombreuses citations de Tyler sont connues et ont été reprises.
Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout.
Ce film met en lumière des personnages, presque tous masculins, qui tentent de retrouver une forme de liberté dans le défoulement et l'autodestruction par le combat entre eux et la destruction de la société qui les oppresse. La construction du film est aussi intéressante par les indices donnés dans le film qui peuvent nous faire comprendre que le personnage de Tyler n'existe pas. Par exemple, son reflet n'apparaît pas dans un miroir, dans une scène du film, ou des éléments écrits sur les murs. On peut aussi voir une image de Tyler apparaître à plusieurs moments du film, pendant une seconde, bien avant que le personnage rentre en scène. Fight Club est un film qui a donné lieu à de nombreuses théories, que l'on peut lire sur le site fait par des fans, intitulé jackdurden.com. De nombreux fans développent encore aujourd'hui des théories sur ce film, même 20 ans après sa sortie. Fight Club est donc un film qui a à voir plusieurs fois afin de remarquer les richesses de scénario et de scénographie. En tant que spectateur, on compatit avec ce personnage anonyme, seul, insomniaque et qui n'est pas heureux. Il cherche à trouver des moyens pour survivre à son désespoir, notamment avec des groupes de soutien pour différentes maladies graves comme le cancer. Mais quand il se sent un peu apaisé, le personnage de Marla apparaît. Seul personnage féminin, Marla, interprétée par Helena Bonham Carter, est une jeune femme dont on sait très peu de choses, mais qui semble aussi peu heureuse que le narrateur. Plusieurs théories affirment que Marla n'existe pas, que c'est une création de l'esprit du personnage principal, comme pour Tyler, mais que Marla est une forme féminine qui accompagne le personnage créé de Tyler. Marla met en lumière l'incapacité du narrateur à réellement régler ses problèmes et qui se complaît dans le confort rassurant des groupes de soutien, où il laisse entendre qu'il est aussi malade physiquement qu'eux. Le film a été très critiqué pour son côté très centré sur la masculinité et son univers très sombre et violent. Mais on peut voir cette violence sous le prisme qu'elle est la seule solution trouvée par le narrateur pour exister en luttant dans une société qui l'oppresse et où le Fight Club est un groupe où il a de l'importance, car c'est lui qui l'a créé et qui en est le leader, et c'est un défouloir pour lui et d'autres hommes.
La première règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ».
On peut voir Tyler comme une forme de réponse testostéronée, de l'incapacité du personnage principal d'agir dans une société qu'il subit et où il va réagir avec violence. Un élément du film est aussi intéressant à explorer, c'est la notion de groupe et d'aliénation. Car en prenant de l'ampleur, le Fight Club devient une véritable secte, invisible aux yeux du grand public. Les membres louent un véritable culte à leur leader et s'investissent totalement dans les idées de Tyler, allant jusqu'à des actes vraiment dangereux pour eux et qui causera un mort, qui va faire comprendre au narrateur que le Fight Club va trop loin. Il va alors essayer de stopper le mouvement, allant jusqu'à se dénoncer lui-même, mais rien n'y fait. La secte est allée trop loin et même son leader ne peut rien y faire. Le contrôle du Fight Club lui a échappé malgré ses efforts pour l'arrêter.
Il s'appelle Robert Paulson.
Il s'appelle Robert Paulson.
Les gars, ça suffit, arrêtez ça.
Robert Paulson.
Fight Club est un film intense avec une mise en scène très détaillée et où on peut découvrir de nouveaux détails en revoyant le film. Le narrateur évolue énormément entre le début et la fin du film. Et lorsqu'on apprend que Tyler n'est pas une personne réelle, on revoit le film avec une toute autre vision. Tyler, qui évolue aussi énormément entre le début et la fin du film, devient de plus en plus sombre, car sa place de leader du Fight Club et le succès de celui-ci le fait changer. C'est un film très dense et fort, avec quelques touches d'humour, et où la notion de soi, du groupe, de la société et de la violence comme réponse à une situation imposée sont abordées par le regard du narrateur qui cherche simplement à lutter pour être heureux.
Vive le cinéma!
Ensemble sur Calade.
Vive le cinéma!
Non, c'est plus.
Vive le cinéma!
Et merci à Pauline Lavenir pour cette rubrique ciné. Après avoir parlé de Fight Club, on est obligé d'écouter la musique du film. Voici les Pixies, Where is My Mind?
Stop!
Les Pixies sur Calade avec Where is my mind, et c'est là-dessus que je vais vous souhaiter une excellente journée. Je ne vous donne pas rendez-vous demain, je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. En attendant, cette émission est à retrouver sur notre site internet radio-calade.fr, et puis rediffusion demain matin à 10h. Voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt sur Calade dans quelques instants, vos pages d'information quotidienne. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.